Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venu. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce mardi soir 13 avril 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Cibler volontairement les installations de Natanz est un crime de guerre, a souligné le ministre iranien des Affaires étrangères. L'Iran suspend sa coopération avec l'Union européenne dans plusieurs domaines. La visite à Téhéran du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov qui a dénoncé les sanctions inacceptables de l'Union européenne contre l'Iran. La résistance yéménite a ciblé objectifs vitaux à l'intérieur de l'Arabie saoudite, dont des installations d'Aramco. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Le chef de la diplomatie iranienne, Sergueï Lavrov, a insisté qu'en raison du récent sabotage nucléaire, les mesures compensatoires de l'Iran augmenteraient considérablement. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a écrit sur Twitter « J'ai écrit au secrétaire général des Nations Unies, ciblé délibérément l'une des installations nucléaires sous surveillance avec un risque élevé de fuite globale de matière radioactive est un terrorisme nucléaire et un crime de guerre. Israël avait menacé de prendre des mesures pour éviter de relancer le plan global d'action conjoint à l'accord sur le nucléaire iranien après les élections américaines et cela se produit maintenant, a précisé Mohammad Javad Zarif. Si les États-Unis veulent éviter les conséquences de ce pari stupide, ils doivent cesser d'utiliser le terrorisme économique mis en œuvre par Trump ou le récent terrorisme nucléaire comme levier d'échange et toutes les sanctions qui ont été imposées, ont été réimposées ou ont changé de nom doivent être annulées depuis la mise en œuvre du plan global d'action conjoint, a souligné Mohammad Javad Zarif. Après vérification en temps opportun de la levée de toutes les sanctions américaines, l'Iran répondra en suspendant ses mesures compensatoires des actions actuellement en hausse en raison du récent sabotage nucléaire, a-t-il souligné encore. La diplomatie iranienne a annoncé suspendre sa coopération avec l'Union européenne dans la lutte contre le terrorisme et d'autres domaines en réaction aux sanctions qu'elle a décidé de prendre. L'Iran suspend le dialogue et la coopération avec Bruxelles sur les réfugiés, les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme et la drogue en raison des sanctions adoptées par l'Union européenne contre les responsables iraniens, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh. Le ministère iranien des Affaires étrangères suspend tout dialogue sur les droits de l'homme et toute la coopération résultant de ce dialogue, notamment concernant le terrorisme et la lutte contre le trafic de drogue et également les réfugiés, a souligné le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, dénonce les sanctions inacceptables de l'Union européenne contre l'Iran. En visite à Téhéran, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a qualifié mardi d'inacceptables les sanctions de l'Union européenne contre l'Iran. S'exprimant après des discussions à Téhéran avec son homologue iranien Mohammad Javad Zarif, mardi, Lavrov a déclaré que les sanctions européennes pourraient saper les négociations en cours dans la capitale autrichienne Vienne pour revitaliser l'accord nucléaire iranien. Mohammad Javad Zarif et Sergueï Lavrov ont signé mardi un accord sur la création et le cadre de centres culturels entre le gouvernement de la République islamique d'Iran et le gouvernement de la Fédération de Russie. À Téhéran, ils se sont entretenus des questions d'intérêt commun, des questions bilatérales, régionales et internationales. Sergueï Lavrov s'est entretenu avec le ministre iranien des Affaires étrangères des sujets surtout économiques et culturels. Mohammad Javad Zarif, lors d'un point de presse avec son homologue de russe Sergueï Lavrov, réagissant à cet acte de sabotage contre le site nucléaire Natanz, a souligné ce qu'ils ont fait à Natanz. Ils ont pensé que cela serait au désavantage de l'Iran. Je vous assure que dans un futur proche, Natanz va passer à des centrifugeuses plus perfectionnées, a-t-il souligné encore. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a été reçu également à Téhéran par le président iranien Hassan Rouhani. Le développement de la coopération Téhéran-Moscou dans divers domaines est le principal objectif de la visite à Téhéran du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale d'Iran, l'amiral Ali Shamkhani, a rencontré à Téhéran, c'était le lundi 12 avril, le conseiller à la sécurité nationale d'Irak, Qasim al-Araji. Qasim al-Araji, en visite à Téhéran suite à une invitation officielle du secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale d'Iran et représentant du guide suprême de la révolution islamique, l'amiral Ali Shamkhani s'est entretenu avec lui au sujet des questions bilatérales, régionales et internationales. Au cours de cette rencontre, M. Shamkhani a affirmé que les États-Unis sont le plus grand facteur d'insécurité et de terrorisme organisé, soulignant que l'accélération de la mise en œuvre de la loi du Parlement irakien sur le retrait des troupes américaines d'Irak renforcera et stabilisera le processus de stabilisation. Il a ajouté que il existe des informations crédibles selon lesquelles les Américains tentent de justifier leur présence perpétuelle en Irak en créant l'insécurité, notamment en soutenant Daesh et en le déplaçant vers différentes parties de ce pays. La résistance yéménite a visé des cibles vitales en Arabie saoudite, dont des installations d'Aramco. Les forces des armées yéménites ont affirmé avoir lancé des attaques contre l'Arabie saoudite en lançant 17 drones et missiles sur différentes cibles vitales, dont des installations du géant pétrolier Aramco. Des raffineries d'Aramco à Jeddah, dans l'ouest de l'Arabie saoudite, et à Jubail, dans l'est de ce pays, ont été visées avec 10 drones, a rapporté la chaîne de télévision de Yéménide Al-Masira, citant le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yahya Sari. Des positions militaires sensibles à Khamis Mouchait et Jizan ont été également visées avec 5 drones et 2 missiles balistiques, a-t-il souligné. L'opération baptisée 30 Shaban, le mois lunaire qui précède celui du mois de Muharram, a duré toute la nuit de dimanche à lundi et s'est achevée à l'aube, a-t-il précisé. Elle a atteint ses objectifs avec précision, avec l'aide de Dieu, a-t-il conclu. Présidentielle au Bénin, les autorités béninoises appelées à privilégier le dialogue pour trouver des solutions. La mission d'observation électorale de la communauté des États sahélo-sahariens déployée au Bénin dans le cadre du scrutin présidentiel de dimanche a appelé les autorités politiques béninoises dans une déclaration publiée lundi soir à Cotonou à privilégier le dialogue et la concertation pour trouver des solutions durables aux questions qui touchent la vie de la nation. La mission a également souhaité aux dirigeants politiques la création des conditions pour une ouverture du champ politique aux Béninois pour résorber les tensions qui sont en cours dans une partie du pays et qui pourraient constituer une menace pour la démocratie, la stabilité et la paix. Eh bien, chers amis, c'est touché à sa fin notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Restez avec nous, nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. L'Iran qualifie de dépourvu de toute crédibilité la récente mesure européenne, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que la République islamique d'Iran envisage des contre-sanctions en réponse aux nouvelles interdictions imposées à plusieurs individus et entités iraniens par l'Union européenne, tout en suspendant toutes les discussions avec l'Union européenne dans divers domaines. Saïd Khatibzadeh a fait ses remarques lundi après que l'Union européenne a annoncé qu'elle avait imposé des sanctions allant des interdictions de voyage au gel des avoirs à vue iranien, y compris le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, le général de division Hossein Salami, et 3 prisons pour des motifs sans fondement liés aux droits de l'homme. La République islamique d'Iran envisage des sanctions réciproques en réaction à la mesure de l'Union européenne, dont les détails seront annoncés plus tard, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères à tout temps. En ajoutant, l'Iran condamne fermement cette mesure et la considère comme dépourvue de toute crédibilité. Sans aucun doute, de telles mesures n'ont aucune valeur car elles ont été prises par de faux prédicateurs des droits de l'homme qui sont restés silencieux sur la base de motifs politiques et n'ont exprimé que des regrets face à la violation des droits du peuple iranien sous des conditions et inhumaine, illégale. Les sanctions américaines et même les ont acceptés, a déclaré Khatib Zadeh. Il a ajouté que les nouvelles interdictions de l'Union européenne ne feraient qu'apporter plus de honte à ceux qui abusent de concepts aussi nobles que les droits de l'homme. En réaction à cette mesure de l'Union européenne, le ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran met fin à tous les pourparlers globaux avec l'Union européenne, y compris les discussions sur les droits de l'homme, ainsi que toutes les formes de coopération émanant de ces pourparlers, en particulier dans les domaines du terrorisme, drogue illicite et réfugiés, a déclaré Khatib Zadeh. Cela est intervenu après 4 jours de discussion entre les représentants de l'Iran et les parties restantes. Un accord nucléaire historique entre l'Iran et les puissances mondiales, officiellement connu sous le nom du plan global d'action conjoint. En décembre dernier, les députés iraniens ont fermement condamné la résolution du Parlement européen qui a censuré l'Iran sous prétexte de protéger les droits de l'homme et menacé de prendre des mesures réciproque. Pas moins de 225 parlementaires iraniens ont publié une déclaration le 20 décembre, 3 jours après que le Parlement européen a ratifié la résolution sur les sanctions visant un certain nombre de responsables iraniens que le Parlement européen a accusé d'une manière sans fondement de violer les droits de l'homme. Les parlementaires iraniens ont critiqué la résolution comme un exemple clair d'ingérence dans les affaires intérieures de la République islamique d'Iran, attirant l'attention sur la façon dont l'Union européenne s'était abstenue de condamner l'assassinat terroriste d'un des scientifiques nucléaires iraniens de haut niveau fin novembre.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Nous riposterons sans aucun doute à l'attaque de notre navire Savis en mer Rouge une fois que nous aurons identifié les auteurs, a martelé le porte-parole des forces armées iraniennes, le général Aboul Fazl Shekarchi. Le général Shekarchi, qui faisait allusion à cette attaque qui avait été menée il y a quelques jours contre un navire iranien en mer Rouge, dont la mission était de combattre la piraterie maritime. Et toujours, le porte-parole des forces armées iraniennes a précisé, l'Iran décidera comment réagir. Une fois son enquête sur l'incident terminée, et l'Iran soupçonne Israël et les États-Unis d'être derrière cette attaque. Toujours selon ce haut responsable militaire iranien, les États-Unis sont sans aucun doute impliqués dans toutes les tentatives visées à porter atteinte à l'Iran. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec 2 invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas un juriste français spécialisé des questions internationales, Maître Arnaud Devollet. Maître Devollet, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous. Bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à vous et bonjour à votre invité.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître Devollet, est en ligne avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Il s'agit d'un spécialiste français des questions internationales, Monsieur Pierre Dortiguier. Monsieur Dortiguier, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour M. Dorostin, bonjour à tous vos auditeurs et à Maître Devollet de Damas, que je salue particulièrement.
Monsieur Dortiguier, on va commencer avec vous, l'émission d'aujourd'hui. Comme première question, Monsieur Dortiguier, pourquoi cette attaque contre ce navire iranien en mer Rouge, un navire dont la mission, je viens de le dire tout à l'heure, consistait à combattre la piraterie maritime, combattre le terrorisme.
Eh bien, je pense que ce que l'on soupçonne, bien sûr, à savoir les Israéliens, ont cherché deux choses. La première, c'est évidemment les capacités de l'Iran, c'est-à-dire à savoir les capacités capacités politiques, disons, la maîtrise également de l'Iran, mais surtout à vérifier. Ils ont vérifié par là même les nouveaux liens, ou les liens encore plus étroits, qu'il y a entre leur système, leur gouvernement, et celui de M. Biden. Je pense que ça, il s'agit d'une opération, comme vous l'avez dit, qui était essentiellement américano-israélienne. Donc on peut dire que de ce point de vue, il y a une unité parfaite. On dit dans Le Figaro, par exemple, qui relate l'incident grave, que le navire américain, l'Eisenhower, a été tenu à l'écart justement de cette opération, c'est-à-dire s'est tenu à une certaine distance pour ne pas être, disons, compromis. Je pense que là, il s'agit de ce qu'on appellerait un banc d'essai de la part des Israéliens. Et il y a aussi un troisième aspect, disons, qui regroupe ces deux, à savoir que les Israéliens cherchent toujours à faire intervenir leurs alliés dans leurs opérations. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien être initiés quelque chose et bien sûr se couvrir par la suite en appelant des protections, parce que ce qu'ils veulent, c'est l'engagement en leur faveur et non pas un dévoilement de leurs forces. C'est-à-dire qu'ils veulent compromettre, disons, toute négociation avec l'Iran possible. Et je pense qu'il s'agit là d'un groupe en Israël, qui est lié parfaitement avec la nouvelle administration. Je ne dis pas que l'ancienne administration n'était pas favorable, mais celle-ci l'est, disons, de façon plus déterminée. Il suffit de voir la qualité de celui qui s'occupe des affaires étrangères, enfin, aux États-Unis, etc., ainsi de suite. Je crois que nous sommes quand même nous ne sommes pas au dernier banc d'essai des Israéliens. Je crois qu'ils continueront encore à faire d'autres agressions comme ils l'ont fait en mer Rouge. Je crois que là-dessus, tous les pays d'Orient sont tenus également à réagir. On parle malheureusement dans la presse, je terminerai là-dessus, dans la presse française, on essaie de montrer qu'il y a des tensions entre l'Iran et la Turquie, par exemple, des choses comme ça. Donc on peut isoler votre pays, je crois, et tenter de l'isoler, même avec des mensonges ou des demi-vérités, et que cette provocation, puisqu'il n'y a pas d'autres termes, d'autres mots, et cette intimidation également à tous ceux qui voudraient, que ce soit la Corée du Sud, que ce soit autre chose par exemple, débloquer les relations avec l'Iran, c'est-à-dire passer au-delà des interdictions financières et autres. J'ai nommé la République de Corée du Sud parce qu'elle a, vous savez, beaucoup d'importance dans les relations avec l'Iran. Et je crois qu'il s'agit d'une manière d'intimidation également, donc aussi envers ceux qui voudraient rétablir des relations normales avec l'Iran. Cette intimidation, en fait, elle s'adresse à l'Europe. Je crois que là-dessus, les Israéliens, quand ils jouent, parce qu'ils jouent là-dedans, calculent leurs effets. Et malheureusement, je ne crois pas que nous soyons à la fin de ces provocations. C'est un chemin. Et il faudra naturellement que les alliés de l'Iran ou ceux qui veulent, disons, se tenir à ses côtés, que ce soit la Russie ou même la Chine, d'autres, et disons, tiennent bien compte, évidemment, de cet Israël qui d'ailleurs est aussi en relation avec eux.
Maître Develé, venez d'entendre les explications de M. Dortiguet. Votre analyse, s'il vous plaît.
Oui, écoutez, je partage certaines des observations de M. Dortiguet dans le sens où, effectivement, il y a une volonté à Washington d'essayer de rattraper le temps perdu par le retrait unilatéral de l'administration Trump de l'accord sur le nucléaire. Et dans ce contexte, effectivement, et alors même qu'à Washington, une délégation particulièrement du Parti républicain au Congrès fait obstruction et annonce déjà que toute décision de l'administration Biden sera combattue bec et ongle au sein du Congrès. Les Israéliens sur le terrain, en coordination avec les éléments Hollywood, on va dire, au sein de l'administration Biden, qui joue quand même un double jeu, s'efforcent effectivement de faire monter les tensions et de harceler l'Iran sur tous les fronts, de façon à pousser l'Iran à réagir de telle manière que tout ce qui peut être entrepris en termes de calmer les tensions serait rendu caduque. Donc on est dans le pur cynisme israélien. J'ajouterais à cela que la situation dans l'État sioniste à la suite des élections qui ont eu lieu n'ont pas permis de dégager une majorité permettant la formation d'un cabinet, rendent la situation d'autant plus périlleuse parce que effectivement, avec une multiplicité des micro-partis, on peut penser que la stratégie de Netanyahou serait de créer une espèce de renversement de la table en provoquant un conflit qui lui permettrait ensuite de forcer l'opinion israélienne à se rallier derrière lui. Le cynisme de Netanyahou ne connaît aucune limite et il fera tout pour se maintenir au pouvoir.
Autrement dit, vous établissez, M. De Volley, si je vous ai bien suivi, un lien entre cette attaque contre ce navire iranien et également la politique intérieure israélienne.
Oui, tout à fait. On ne peut pas déconnecter les deux aspects de la situation. Ils sont intimement liés.
Autrement dit, vous voulez dire qu'il s'agit d'une tentative du Premier ministre israélien de vouloir toujours s'accrocher au pouvoir?
Oui, absolument, et ce faisant d'échapper aux poursuites sur les dossiers de corruption qui le harcèlent depuis maintenant plusieurs années.
Monsieur d'Ortiguit, il n'en est pas question pour l'Iran de laisser sans riposte cette attaque contre ce navire iranien en mer Rouge. Je viens de mentionner tout à l'heure en fait la déclaration du porte-parole des forces armées iraniennes, le général Aboulfazl et de Shekarchi. L'Iran, Monsieur d'Ortiguit, est en mesure de riposter. Pour mieux dire, Monsieur d'Ortiguit, vous êtes un très bon connaisseur des questions relatives à l'Iran. L'Iran a les moyens, si vous voulez, de sa politique défensive et militaire pour se défendre et pour, en fait, faire face à toute agression.
Oui, en effet, ce dernier point, ce point que vous soulevez, pardon, est très juste et il est confirmé par cette insistance, vous savez, diplomatique hein, contre l'Iran qui consiste à dire que ce n'est pas la question atomique qui est importante, mais que c'est son armement balistique, vous savez, à savoir cette volonté d'utiliser les inspecteurs, disons, du inspecteur atomique, pour pouvoir justement dénoncer tout armement possible de l'Iran, tout perfectionnement technique qui assurerait évidemment une riposte à toute agression dirigée contre lui. C'est là qu'on saisit le mieux, disons, ce qui a été dit depuis déjà des années, en disant que si les négociations du traité de Vienne ne sont pas suffisantes, les accords de Vienne ne sont pas suffisantes, qu'il faut disons, les accompagner d'inspection, de plus tatillon possible, etc., touchant, je veux dire, l'armement ordinaire de l'Iran. Armement, je veux dire, non atomique. Il n'y a pas d'armement atomique, mais disons, l'armement classique. Et c'est justement cette intimidation, cette guerre, disons, psychologique, politique, en même temps, contre l'Iran qui permet, qui donne justement cette audace à l'administration israélienne, au gouvernement de Netanyahou, en effet, de donner des, comme on dit, des coups d'épingle à l'Iran en regardant ses propres alliés et en disant, voyez, vous ne risquez rien, nous-mêmes qui sommes une nation ainsi de toute petite, etc., nous pouvons nous défendre, et donc vous-même essayez de continuer justement cette intimidation contre l'Iran. Parce que ce qui est, dans toutes ces affaires-là, il ne faut pas chercher, à notre sens, simplement des questions de riposte, s'interroger sur la qualité des ripostes stratégiques, mais aussi la politique. Car la question est toujours politique. C'est-à-dire, est-ce que l'Iran pourra être détaché du soutien qu'il apporte, moral, matériel, par exemple à la Syrie, au Liban, au front de la résistance, vous voyez, tout ceci est finalement ce qui est essentiel pour Israël, pour le représentant, comme a dit votre correspondant dans le parti des représentants du Likoud, si je puis dire, aux États-Unis, etc. Je dois dire que l'Iran a les moyens, et on sait qu'il a les moyens, on sait qu'il a la capacité politique de le faire, et je crois simplement que Israël, qui craint l'Iran de ce point de vue, a besoin de l'enveloppement et du secours de ses alliés. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut faire attention et qu'il faut justement, disons, essayer de séparer, de montrer à ces alliés-là que s'ils suivent l'État d'Israël comme ils l'ont fait dans le passé, eh bien, c'est toute leur économie qui risquerait aussi, plus ou moins, disons, d'en pâtir, car ça serait l'introduction d'un désordre permanent en Orient.
Maître de Velay, en fait, les États-Unis ont une nouvelle fois, saillissant de cette affaire également, ont cherché, si vous voulez, à jouer un double jeu. Les États-Unis disent ne pas être impliqués dans cette attaque contre le navire iranien, mais il y a eu cette information comme quoi, en fait, Israël avait informé les États-Unis de cette attaque contre ce navire iranien, une attaque qui a eu lieu en même temps où il y a eu quand même ces négociations entre l'Iran et le groupe 4+1 à Vienne sur le nucléaire iranien, également sur un éventuel retour des États-Unis, si vous voulez, à cet accord, également la question de voir en fait les États-Unis de remplir pleinement leurs engagements pris dans le cadre de cet accord nucléaire de 2015. Là aussi, il s'agit d'un double jeu, semble-t-il, maître de volée de la part, si vous voulez, des autorités américaines, n'est-ce pas?
Oui, ça peut être une interprétation, celle d'un double jeu, mais ça peut être aussi une expression d'une administration Biden dont on soupçonne, on devine qu'elle est complètement éparpillée, qu'il y a en fait plusieurs groupes d'intérêts qui s'affrontent et qu'il laisse entendre effectivement de l'extérieur qu'au minimum, il joue un double jeu. Ou alors, on est dans une cacophonie totale. Et j'ai bien peur, malheureusement, qu'il soit plutôt question d'incompétence et d'absence d'uniformité dans la conduite des affaires étrangères, qui plus est au Moyen-Orient. Et c'est ça qui rend, selon moi, la situation extrêmement dangereuse, plus que la perception qui pourrait être faite, effectivement, d'un double jeu. Parce que n'oublions pas qu'il y a quand même un désir au sein du Pentagone de réorienter la stratégie globale des États-Unis selon leur document officiel de 2020-2021 pour se refocaliser sur ce qu'ils appellent des adversaires stratégiques à l'échelle globale tels que la Russie ou la Chine. Donc on assisterait plutôt en fait à une espèce de décrue en termes de présence américaine dans la région pour un repositionnement plutôt en Europe de l'Est ou dans le Pacifique. Mais maintenant, effectivement, avec le lobby israélien, qui quand même possède une force d'influence à Washington, et en cela, je rejoins tout à fait l'analyse du docteur Bortiguier, c'est que tout sera fait pour essayer, par la tignasse de leurs cheveux, forcer les Américains à rester dans la région, et je dirais, en plus de cela, essayer d'impliquer d'autres nations, telles que la France, dont... On a pu voir les dernières semaines qu'elle avait, à la suite de la visite du chef d'état-major des forces armées israéliennes à Paris, Paris avait décidé de mener effectivement une opération de coalition navale dans le Golfe qui a, de toute évidence, des visées de provocation. Donc c'est un jeu extrêmement dangereux qui laisse entendre que les Israéliens n'hésiteront et n'arrêteront pas de faire en sorte que d'autres pays en fait soient impliqués dans leurs intérêts, dans leur agenda régional, et de façon à pouvoir ensuite invoquer effectivement une menace qui n'en est pas une, mais que les Israéliens ont tout intérêt à essayer de monter en épingle pour pouvoir sortir leur épingle du jeu.
Monsieur Dorsiguet, est-ce que vous aussi vous estimez, tout comme Maître Develet, que là, il s'agit en fait d'un levier de pression exercé contre les États-Unis qui envisageraient de changer de cap et de, et, si vous voulez, de changer d'orientation politique et géopolitique pour en fait se retirer du Moyen-Orient et se concentrer sur, si vous voulez, d'autres régions du monde en ayant un œil sur la Russie et la Chine. Pensez-vous qu'il s'agit en fait, tout comme ce Develet, d'un levier de pression exercé par le régime israélien et également certains autres pays sur les États-Unis pour en fait les forcer à ne pas, si vous voulez, suivre une telle approche?
Oui, en effet, je suis tout à fait d'accord avec Maître Develet. Les États-Unis, depuis l'arrivée de M. Trump, ont manifesté, disons, des intérêts qui sont tout à fait compréhensibles, de retrait, disons, du Proche-Orient, c'est-à-dire de faire en sorte que ce soit leurs alliés traditionnels qui puissent se défendre eux-mêmes, qui sont suffisamment forts, bien sûr, nourris en armes, etc., pour pouvoir le faire indépendamment des États-Unis. C'est une question, cela est allé jusqu'en Afghanistan. Monsieur Trump l'avait annoncé, et je crois que la politique de Monsieur Biden a repris aussi, c'est tout à fait dans l'intérêt des Américains. Enfin, c'est une affaire de grande puissance, de rapport de puissance, qu'il y avait en effet une concurrence avec la Chine, concurrence d'ailleurs qui est une concurrence sérieuse. C'est pas simplement une sorte de relation de confiance de nation. Vous avez des investissements chinois très importants, en France en particulier, investissements financiers et autres. Et bien sûr, cela entraîne des remous, disons, de la part des États-Unis, au sein des États-Unis. Alors, il y a donc des intérêts très marqués, qui sont des intérêts géopolitiques, et bien sûr, ceci est au détriment de cette clique, disons, enfin, cette clique, ce n'est pas péjoratif, c'est une manière de désigner, disons, une minorité qui est la minorité israélienne, qui est très importante aux États-Unis, et qui ne veut pas être abandonnée, car, bien sûr, on revient toujours à la fragilité. Quand même, c'est pas parce qu'Israël reçoit des armements, reçoit énormément de soutien financier de la part des États-Unis, avec des gens qui le nourrissent parce que quand ils donnent de l'argent, ils ont des facilités du point de vue fiscal, des facilités fiscales, etc., que l'État d'Israël est fort. Non, l'État d'Israël est bâti sur un déséquilibre et a besoin justement d'une situation, disons, de guerre, de tension, hein, pour se maintenir. Et maintenir aussi son emprise à l'intérieur des États-Unis. Emprise, je veux dire, financière, emprise politique. Et donc, l'État d'Israël est à la fois offensif et défensif. Il est obligé de se défendre, disons, car il sait qu'il est lui-même une minorité à l'intérieur même des États-Unis. Et bien sûr, il a des appuis, mais des appuis qui sont des appuis en Occident, avec l'Allemagne, par exemple. Ça, si vous connaissez les circonstances à cause de la Seconde Guerre mondiale. Et il se nourrit en armement avec les sous-marins de classe Dauphin, etc. Mais en France, il se profite évidemment aussi de la faiblesse, je dirais, économique et financière de la France, pour pouvoir justement faire en sorte que le Charles de Gaulle, par exemple, notre fleuron national, puisse aussi se balader, disons, enfin, parcourir les eaux locales pour pouvoir, disons, impressionner ce qu'on appelle les ennemis d'Israël. En réalité, les ennemis d'Israël, ce sont des gens qui baptise ainsi ceux qui sont, disons, ceux qui reconnaissent le caractère offensif permanent de cet État, et tout que l'on voit sur le champ de bataille, que l'on voit en Syrie, que l'on voit au Liban, etc. Et donc, tant qu'il n'y aura pas, disons, de résolution profonde, des résolutions, disons, actives, pour pouvoir mettre fin à la question palestinienne, disons, établir la justice dans cette région. À ce moment-là, évidemment, Israël sera toujours à la recherche, disons, de tensions pour se maintenir, c'est-à-dire avoir une vie artificielle et non pas une vie naturelle, comme il y en a entre les États.
Merci beaucoup, Maître Develet. Nous arrivons presque à la fin de notre émission. Nous avons 2 minutes devant nous. Vous l'avez dit, M. Dorsiguet également, il a fait des allusions. Il s'agit d'un acte de provocation. Mais là aussi, l'Iran a fait preuve de vigilance et de patience en disant que voilà, nous attendons qu'une enquête soit terminée. Ensuite, nous allons punir, si vous voulez, les auteurs de cette attaque. Là aussi, on assiste à une intelligence stratégique côté iranien, n'est-ce pas, monsieur De Vollet?
Oui, tout à fait. L'Iran, dans ce sens, est très consistant dans son approche de ne jamais se précipiter à tirer des conclusions et surtout tomber dans des pièges qui ensuite serviraient des intérêts israéliens. En l'occurrence, il s'agit de choisir le moment précis pour pouvoir identifier de manière précise les perpétrateurs et, ce faisant, après, réagir de manière appropriée dans un contexte que l'Iran choisira et non pas dans un contexte que les ennemis de l'Iran lui auront dicté.
Merci beaucoup. Merci infiniment, Maître Arnaud De Vollet, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas, capitale syrienne. Mes vifs remerciements vont également à vous, M. Pierre Dortiguet, philosophe français spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest. L'Iran accuse ouvertement le régime sioniste d'être derrière l'incident de Natanz. Avec cette action, le régime sioniste a bien sûr essayé de se venger du peuple iranien pour la patience et la sagesse dont il a fait preuve en attendant la levée des sanctions américaines, a déclaré le porte-parole des ministères iraniens des Affaires étrangères Saïd Khatibzadeh lors d'une conférence de presse à Téhéran. Monsieur Khatibzadeh a accusé d'Israël de saborder les discussions en cours à Vienne pour tenter de faire revenir les États-Unis dans l'accord international de 2015 sur le nucléaire iranien et de lever les sanctions imposées par Washington contre Téhéran. Dimanche, l'Organisation iranienne de l'énergie atomique avait annoncé que le complexe nucléaire de Natanz, dans le centre de l'Iran, avait subi dans la matinée un accident qualifié d'acte de terrorisme ayant entraîné une coupure de courant, n'ayant fait ni mort, ni blessé, ni pollution. Il est encore trop tôt pour déterminer les dommages matériels causés par l'attaque, a déclaré M. Khatibzadeh lundi. Il faut inspecter chacune des centrifugeuses pour donner un bilan des dégâts. Si l'attaque visait à limiter la capacité nucléaire de l'Iran, je dirais en revanche que toutes les centrifugeuses qui ont été endommagées étaient du type IR-1, c'est-à-dire de première génération, a dit M. Khatibzadeh. Faites savoir à tout le monde qu'elles seront assurément remplacées par des machines plus avancé, a-t-il souligné, promettant que la réponse de l'Iran sera la vengeance contre le régime sioniste au moment et à l'endroit opportun. La Russie a réagi à ce sabotage contre le site nucléaire iranien de Natanz. La Russie est préoccupée par une attaque contre l'installation nucléaire de Natanz, a déclaré lundi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.
Elle a salué les efforts de l'Iran pour aider à éliminer les conséquences, affirmant que les spécialistes du pays avaient réussi à y faire face de manière opportune et professionnelle. Au cas où une implication israélienne s'avérerait dans l'acte de sabotage survenu dans le complexe nucléaire de Natanz, l'ouverture d'une enquête internationale à ce sujet deviendra un impératif, a annoncé de son côté la Commission des affaires internationales du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie. L'ex-premier ministre de Qatari révèle qui est derrière les récents événements en Jordanie. L'ancien premier ministre de Qatari, Hamad Ben Jassem Al Thani, a révélé quels sont les partis qui, selon lui, soutiennent les récents événements en Jordanie, en expliquant la raison. Lors de la première semaine du mois d'avril, les médias et les agences jordaniennes ont fait état d'une tentative de renversement du roi Abdallah II conduite par son demi-frère Hamza. Elle a été étouffée dans l'œuf avec l'arrestation d'un certain nombre d'officiers. Ce qui s'est passé en Jordanie avait été planifié depuis longtemps par certains responsables de la précédente administration américaine et l'un des pays de la région qui voudrait remplacer le régime actuel sous la direction du roi Abdallah II, a écrit l'ancien premier ministre de Qatari sur sa page Twitter. L'ex-premier ministre Qatari a poursuivi en expliquant la principale raison derrière cette tentative ratée. La position du roi Abdallah contre toute normalisation au détriment de la cause palestinienne ou ce que l'on appelle désormais l'accord d'Abraham, sa position est la principale entrave à ses plans, a-t-il précisé. L'agence jordanienne d'Amon News et plusieurs médias israéliens ont rapporté que les forces de sécurité avaient découvert un lien entre un Israélien, ex-agent du Mossad, vivant en Europe, et l'épouse du prince Hamza Ben Hussein, à qui il avait proposé de la faire voyager hors du pays. Militaires saoudiens et mercenaires yéménites exécutés, l'armée saoudienne infiltrée par Sanaa. L'Arabie saoudite a exécuté 3 de ses militaires qui faisaient partie de son ministère de la Défense 2 semaines après que les autorités de Sanaa ont annoncé la présence de combattants saoudiens parmi leurs forces. Riyad reconnaît indirectement que Sanaa a pu infiltrer ses forces terrestres. C'est le ministère saoudien de la Défense qui a annoncé le samedi 10 avril avoir appliqué la peine de mort à l'encontre de 3 de ses militaires accusés d'avoir commis une haute trahison en coopération avec l'ennemi. Il appartenait aux employés du ministère saoudien de la Défense, précise sur Twitter ce dernier, qui n'a pas précisé de quel ennemi il s'agit. En outre, rapporte le quotidien libanais Al-Akhbar, les forces du président pro-de saoudien de contester Abdel Rabo Mansour Hadi, le président fugitif, ont fait état que de 9 officiers yéménites mercenaires qui combattaient dans les rangs de la coalition d'agression dirigée par l'Arabie saoudite contre le Yémen ont eux aussi été traduits devant le ministère saoudien de la Défense et qui les accuse de haute trahison. Le mois dernier, Riyad avait condamné à mort un certain nombre de mercenaires à Jizan, au sud de l'Arabie Saoudite, au motif de collaboration avec l'armée yéménite Ansarallah et de complot pour de tuer un officier saoudien. L'Arabie Saoudite détient toujours des dizaines de mercenaires suite à des manifestations qui ont eu lieu dans les bases saoudiennes à la frontière sud du royaume. Les militaires arrêtés depuis l'année dernière réclamaient le versement de leur salaire et leur retour à leur pays, le Yémen. Depuis le début de cette année, l'Arabie Saoudite a pris une série de mesures pour empêcher que ses forces ne soient infiltrées par Sana'a. Elle a interdit à tous les techniciens yéménites de travailler pour la compagnie pétrolière d'Aramco de se rendre vers les champs pétrolifères, raffineries et les réservoirs de cette entreprise dans tout le royaume. Ces mesures interviennent après une série de frappes aériennes qui ont visé le géant pétrolier d'Aramco dans différentes régions de l'Arabie Saoudite avec une haute précision. En outre, les Saoudiens s'inquiètent du fait que certains de leurs militaires faits prisonniers par le mouvement Ansarallah ont refusé de revenir avec leurs confrères lors de leur libération et sont restés combattre avec les combattants d'Ansarallah contre l'agression des Saoudiens. Dans un certain Abdul Aziz Abou Al-Iz, qui a été tué récemment durant les combats à Sarouar. Selon des sources informées de Sana'a, les autorités saoudiennes ont exécuté 24 officiers et soldats saoudiens au motif qu'ils ont collaboré avec la résistance yéménite. Certains d'entre eux avaient été faits prisonniers puis relâchés à la fin de l'an dernier dans le cadre d'un échange de prisonniers entre Sana'a et Riyad. Eh bien, chers amis, ici touche à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.